explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
C'est un empire dont tout le monde connaît l'existence, mais qui est pourtant passé comme une étoile filante dans l'histoire des civilisations. Il y a près de 600 ans, l'empire Inca, le plus grand empire de l'Amérique précolombienne, voyait le jour. À son apogée, il s'étendait le long de la cordillère des Andes sur 4000 km du nord de l'Équateur au centre du Chili actuel. Cet empire immense s'est bâti en un temps record. Il a fallu moins d'un siècle aux 400 000 Incas pour soumettre les peuples qui vivaient autour d'eux et ainsi asseoir leur domination sur 10 millions de personnes. Alors comment les Incas ont-ils réussi à conquérir un si vaste empire et soumettre autant de gens en si peu de temps ? Tout aussi surprenant, cet empire s'est effondré aussi vite qu'il s'était édifié sous le choc de la conquête espagnole. Que s'est-il passé ? Comment une poignée de conquistadors a réussi à prendre le dessus sur plusieurs dizaines de milliers de soldats incas ? Pour comprendre l'extraordinaire expansion de la chute brutale du plus grand empire de l'Amérique précolombienne, cet après-midi, nous partons bivouaquer avec un archéologue sur la piste des Incas.
J'aimerais connaître la vraie version des choses, les événements, les histoires.
Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter.
Des aventures, plein la musette.
Du coup, on sait pas bien par quoi commencer.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour, Patrice Lecoq.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, spécialiste de l'ère andine, chercheur à l'université Paris 1. Vous êtes l'auteur avec Éric Taladoire du Que sais-je, les civilisations précolombiennes aux éditions PUF. Vous menez depuis près de 30 ans des chantiers de fouilles au Pérou et vous allez donc nous expliquer comment l'empire Inca a prospéré pendant un siècle pour disparaître brutalement ensuite. Nous sommes en direct et vous pourrez donc répondre aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, la journaliste Martine Laroche-Joubert viendra partager avec nous son expérience de reporter de guerre. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux. Elle a été réalisée par Marion Lelay.
Hey. Hola, hola.
Hola. Bienvenue à Cusco.
Tu peux pas savoir comme je suis content d'être là.
Ah, c'est génial.
Un vrai bonheur. Depuis tout gamin, j'ai envie de découvrir ton pays et commencer par la capitale de l'Empire Inca. On peut pas faire mieux, je pense. Pour refaire un peu le point de ce qui me reste de mes cours d'histoire, ouais. Les Incas, c'est plutôt vers le 10, 12e siècle jusqu'au 15e.
C'est une période de 3 siècles.
En fait, 3 siècles seulement.
Exact, entre les 12 et les 15e siècles. C'est l'arrivée de Cristóbal Colombo dans l'Amérique du Sud et juste après les Espagnols qui sont arrivés, Pizarro, il est arrivé là.
Okay. Il reste des vestiges, des Incas, ici sur
cette
place.
Toutes les pierres que tu vois, c'est des pierres des Incas qui sont utilisées pour la construction de ces bâtiments hispaniques. On est dans la rue Hatun Rumiyoc. Ça veut dire la rue des grandes pierres. Mmh. Regardez, ça c'était le palais du 6e Inca, l'Inca Roca. Et à gauche, un mur qui a été reconstruit après. Donc on dit le mur Inca, le mur des incapables.
Ah oui. Ça c'est pour les conquistadors.
Exactement.
Boum. Allez, prenez ça les conquistadors, très bien. Ouais.
Voilà.
Un extrait d'Échappée Belle sur France 5, c'est tout naturellement à Cusco, au Pérou, à 3400 mètres d'altitude, que nous commençons notre bivouac sur la piste des Incas. Aujourd'hui, Cusco est très différente de ce qu'elle fut il y a 6 siècles, sous le règne des Incas. C'était le cœur de l'empire Inca, Patrice Lecoq. À quoi ressemblait cette ville à l'apogée du règne Inca ?
Alors c'est une ville en effet qui a été bâtie, on pense, avant l'arrivée des Incas, qui était occupée par des populations dont on ignore les noms, même avec les chroniques. Ce n'était pas des populations incas, c'est des populations qui ont été conquises par les Incas vers le 12e siècle, lorsque les Incas sont arrivés. Alors, on raconte que les Incas seraient arrivés de la Titicaca, dans les légendes, avec le fondateur de l'empire qui est Manco Capac et sa sœur épouse Mama Ocla. D'autres légendes racontent qu'ils seraient venus d'un endroit qu'on appelle le Pacaritambo. C'est-à-dire, c'est une caverne qui est localisée, caverne rituelle, qui est localisée à 70 kilomètres de là. Et il aurait été mandaté par une divinité qui, Viracocha, qui lui a dit « Maintenant, il est temps de partir pour fonder un empire, qui sera l'empire du Tahuantinsuyo ».
Mais ça veut dire qu'on n'a que des légendes pour essayer d'avoir une idée de la provenance de ce peuple inca. On ne sait pas exactement d'où ils viennent.
On ne sait pas d'où ils viennent et les données archéologiques ne correspondent pas aux données. On ne sait pas à quoi correspondent les. On sait comment reconnaître les témoignages incas, mais ils sont tardifs. Et ce qu'il y a avant les incas, on est incapable de le déterminer. C'est-à-dire, on est incapable de dire qui était là. Mmh. On sait que les incas arrivent d'une autre région. Donc, ils envahissent la région et ils s'établissent progressivement en l'espace de 70 ans à Cusco. Et petit à petit, au cours des siècles, comme l'a très bien dit cet informateur, en l'espace de 100 ans à peine, ils vont s'établir. Ouais. Donc, le premier est un Inca légendaire. On ne sait pas. On le date du 12e siècle, Mama Ocla, mais on n'a pas de date, puisqu'il n'y a pas d'écriture dans les Andes. Donc ça, c'est un témoignage important. Contrairement aux Aztèques, où on a des codex un peu tardifs, aux cultures qu'on trouve en Mésoamérique, c'était en Amérique centrale, on n'a pas d'écriture. Donc évidemment, on se perd en conjecture pour savoir ben, qui étaient ces populations. Alors pour les Incas, on a les données qui ont été recueillies par les chroniqueurs. Les chroniqueurs, ce sont des gens, des Espagnols qui arrivent avec Pissarro, qui vont enregistrer les légendes. Donc les légendes qui sont les témoignages ben, de la hiérarchie des Incas, de leur organisation. On sait par exemple qu'il y a eu 13 Incas, mais on n'est pas très sûr. On pense qu'il y a eu des Incas qui vivaient en même temps. Mmh. Donc on pense que c'est 13 Incas parce que ce sont les Incas
très empereurs.
15 empereurs, en quelque sorte, ce qu'on appelle les Sapaycas, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir. Mais là, on pense aujourd'hui que certains Incas ont co-régné. Ouais. Donc on pense peut-être qu'il y en a eu 12, peut-être 14. Bon, voilà. Donc ça, pour répondre à la question, ce sont ces Incas qui arrivent à peu près vers le 12e siècle et qui s'installent progressivement. Ouais. Alors au départ, Cusco, c'est une toute petite ville qui est occupée par des populations. Donc on connaît les témoignages archéologiques, on connaît la céramique, Quilqué notamment, c'est le style céramique, mais on est incapable de mettre un nom de population sur ce style. Puis les Incas s'installent et progressivement, ils vont prendre de l'importance, ils vont conquérir les régions environnantes et très vite, ils vont être en prise à une population de guerriers qu'on appelle les Chancas, qui sont localisés à peu près à 70 kilomètres à l'ouest, qui sont des guerriers et qui s'opposent très vite aux Incas. Donc on aura plusieurs guerres entre les Incas et ces
populations. Sauf que ce sont des guerriers qui ont l'air d'être plus puissants que les peuples autour, puisque en un siècle, au 15e siècle, hein, c'est à ce moment-là vraiment que l'empire Inca s'agrandit, ils conquièrent des territoires très important.
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette guerre entre les Chancas. Je simplifie. Et puis, à un moment, l'Inca qui est Viracocha, qui est le 6e ou 7e Inca, a peur de ces Chancas, s'en va. Et son fils prend le pouvoir, repousse les Chancas, et à partir de ce moment-là, prend le nom de Pachacutec, qui est le grand réformateur. Ouais. Et aujourd'hui, on le compare à un Napoléon. Ouais. C'est le Napoléon cusquénien, en quelque sorte.
C'est le conquérant,
voilà.
Chez les empereurs.
Et c'est lui, pourquoi j'en parle? Parce que c'est lui qui va fonder la cité de Cusco. Donc c'est lui qui va la replanifier, il va expulser les populations, ça c'est important de le savoir. Donc il expulse les populations qui habitaient l'emplacement, et il va établir là, à cet endroit-là des familles incas, et puis des palais incas. Et à partir de moment, les populations qui habitaient là sont reléguées dans la périphérie, dans les environs de Cusco, et on ne va trouver dans le centre de Cusco que des incas, donc la noblesse inca. Et à partir de là, les Incas vont prendre une expansion considérable et vont conquérir des territoires avec son fils, par exemple, qui est Tupac Inca Yupanqui. Il va établir des territoires vers le sud. Vous parliez tout à l'heure que l'Empire Inca descendait jusqu'à presque jusqu'à Santiago de Chile aujourd'hui. Mm-hmm. En effet, c'est tout ce qu'on appelle la région du Coyao. Il va fonder un empire qu'on appelle l'Empire des Quatre Moitiés, Taiwan Tin Suyu. Suyu, ça veut dire les moitiés. Donc c'est très simple. Moitié du haut, moitié du nord, moitié du sud, Coyao Suyu, l'Anti Suyu, l'Est et l'Ouest.
Mm-hmm. Alors, cet empire qui fait quand même 4000 kilomètres de long, hein, faut voir, c'est la distance entre...
Le Maroc et ce qui correspond à Moscou aujourd'hui, plus ou moins.
C'est ça, pour donner vraiment la taille, l'ampleur de cet empire, les Incas, même si ça n'est qu'une estimation, je disais 40 000 Incas, ils étaient peut-être un peu plus, on ne sait pas exactement combien ils étaient, mais c'est l'ordre de grandeur, ils arrivent à mettre la main sur tous ces territoires et à gouverner 10 millions de personnes. Alors comment ce peuple relativement d'effectifs modestes arrive à ce point à gouverner un si grand empire?
Alors il faut quand même préciser une chose. On appelle Inca uniquement les... Normalement, on devrait donner le nom Inca aux membres de l'élite Inca. Le reste, c'est pas des Incas. Ouais. Le reste, ce sont des populations conquises, mais multiethniques, avec des groupes ethniques très très complexes qui existaient avant, qui conservent leur organisation territoriale et qui sont conquis mais par la guerre ou par l'alliance. Alors, pour simplifier la façon dont arrivait l'Inca de conquérir, ils arrivaient dans une rue, je simplifie vraiment au maximum. Donc, ils arrivaient avec leur armée puissante, 3000 animaux, donc oui, c'était vraiment une caravane très très puissante. L'armée Inca, qui était composée souvent d'Inca et puis de personnes qui avaient avaient été de mercenaires qui étaient. Et puis ils arrivaient dans un village, ils disent bon voilà, vous pouvez vous associer à nous et à ce moment-là vous deviendrez un Inca de privilège. Mmh. On enverra votre fils dans les meilleurs temples, dans les meilleures écoles de Cusco de façon à en faire un Inca de privilège, un peu en otage bien sûr.
Ouais.
Et on enverra aussi votre divinité, ce qu'on appelle la Huaca, c'est le saint. C'est les saints qu'on trouve dans les villages français, en quelque sorte. La statue du saint sera aussi emmenée dans notre temple du soleil, qui était le temple extraordinaire, où les Incas adoraient le soleil. Et on en fera une divinité que l'on adorera aussi. Et puis, donc, évidemment, les gens qui étaient conquis avaient tout intérêt à accepter d'être conquis, parce que c'était quand même à leur avantage. Et à ce moment-là, bon, ils faisaient partie intégrante de l'Empire Inca, et ils conservaient les chefs locaux, qui est intégré à l'administration Inca. Donc la structure était à deux registres, structure Inca et structure locale. Et puis s'ils n'obéissaient pas, on leur donnait 2-3 jours, et à ce moment-là, on les massacrait.
Ouais.
On raconte dans certaines chroniques, c'est Sade Lo Nomad, qui est un des chroniqueurs, raconte que s'ils n'obéissaient pas, ben on tuait le chef. Et il est arrivé, on raconte aussi qu'on faisait un tambour avec sa peau, et on revenait 2-3 jours après, on jouait du tambour avec la tête de la personne qui a été tuée. Évidemment, tout le monde était frappé par la peur. Et évidemment, se soumettait. Et s'ils ne se soumettaient pas, à ce moment-là, on envoyait les populations conquises en déplacement forcé à 1000 km de là, dans les parties qui avaient été récemment conquises par l'Inca pour exploiter.
Donc, à la fois diplomate, en même temps la force, la ruse, on tente d'impressionner. Ce sont aussi des formidables bâtisseurs, hein, on s'en aperçoit sur le site de Sacsahuaman, le plus grand édifice de Cusco, une fortification pour protéger la ville, mais aussi, là encore, pour impressionner les représentants et les chefs des autres communautés sur lesquelles les Incas voulaient asseoir leur domination. Et les archéologues sont très admiratifs, encore aujourd'hui, de la construction de Sacsahuaman. Notre guide ici s'appelle Francisco Solís Díaz.
Ils ont ajusté les blocs avec tellement de précision qu'on ne peut même pas faire passer une aiguille entre eux. C'est un travail très méticuleux. Ils ont utilisé des pierres préformées qu'ils ont polies sur place et assemblées, comme ceci, à joints vifs. On a assez d'éléments matériels pour le prouver. Ce réservoir servait à distribuer l'eau aux spectateurs réunis lors de ces événements. On a retrouvé des canaux qui alimentaient la place en eau.
Ils avaient bien conscience de l'impact psychologique des cérémonies, de l'importance de dégager une aura d'invincibilité pour que leurs vassaux les suivent et leur obéissent. Ce site le démontre plus clairement qu'aucun autre.
Un extrait de l'Empire Inca, diffusé sur France 5 dans la case Science Grand Format. Alors, on est dans un site mégalithique, là, avec des pierres de construction gigantesques. On sait comment les Incas s'y sont pris pour construire aussi rapidement un tel édifice, Patrice Lecoq.
Rapidement, on ne sait pas. Enfin, ça a dû demander plusieurs décennies. Alors, on pense que les techniques étaient utilisées avant l'arrivée des Incas, notamment dans un site qui date du Xe siècle, après, qui est le site de Tiwanaku, de Huari, qui est un site beaucoup plus ancien. Et on pense que certains architectes se sont inspirés de ces monuments qui datent d'avant l'arrivée des Incas. Ils ont repris ces techniques à leur compte. Alors, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle des murs à bossa, c'est-à-dire des architectures mégalithiques avec des blocs qui peuvent mesurer jusqu'à 5-8 mètres de haut et peser jusqu'à 10 tonnes, si ce n'est plus. Et vous avez en effet une forteresse. Une forteresse, c'est un bien grand mot. C'est un site qui domine la ville de Cusco avec un mur défensif, avec des murs à rodents, donc qui ressemble à des dents serrées, il y a 3 rangées, qui mesurent à peu près 2 à 3 mètres de haut, chacune des fortifications. Et on sait que dans cet édifice, on avait des structures de stockage, un observatoire, des casernes. Donc ça, c'était un rôle multifonctionnel que ce site de Sacsahuaman. Et c'est un site qui, encore aujourd'hui, c'est là que se déroulent les grandes manifestations touristiques d'Inti Ratami, où on adore l'Inca.
Il en reste encore, évidemment.
Et donc ces pierres ont été réutilisées par les Espagnols pour construire les monuments actuels, notamment la cathédrale.
Les Incas sont puissants, leur organisation semble minutieusement pensée, et pourtant, cet empire va s'effondrer aussi rapidement qu'il s'est constitué. Nous allons comprendre pourquoi. Nous partons sur la piste des Incas avec l'archéologue Patrice Lecoq cet après-midi. Pour nous adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook.
Daniel Fievé, Le temps d'un bivouac.
C'était la chanteuse Ima Sumac, surnommée le Rossignol des anges, qui chantait Ataya Pura sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor. Recherche les cités d'or.
Le générique des Cités d'Or, dessin animé qui a bercé plusieurs générations et ravive de jolis souvenirs. J'ai l'impression qu'il vous met en joie, Patrice.
Oui, j'ai
Lecoq.
Découvert ça avec mes étudiants, donc c'est pas ma génération du tout, mais j'adore, je les ai achetés d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont venus étudier justement les civilisations précolombiennes qui avaient été bercées par ce dessin animé.
Et qui m'ont posé des questions justement sur l'or, est-ce qu'il y avait vraiment de l'or? Et la cité de l'Eldorado, est-ce qu'elle existait vraiment?
Alors parlons-en de cette cité d'or, de ce mythe de l'or des Incas, c'est un mythe ou une réalité?
Alors c'est un mythe, c'est pas une réalité, et c'est un mythe qui continue aujourd'hui d'animer parce que c'est on cherche la cité perdue. Il y a encore un de mes collègues ici en France qui cherche, Thierry Jamin, qui cherche la cité perdue en Amazonie parce qu'on pense que c'est une des cités qui aurait été fondée par les Incas qu'on n'a jamais retrouvée. Ouais. On pensait à un moment que le Machu Picchu était justement cette cité de l'or, où Choquequeouche travaille une cité de l'or. On l'a jamais retrouvée.
Ouais. Pour autant, ils possédaient quand même des quantités d'or impressionnantes, ces Incas.
Oui, mais alors, il n'y a pas de valeur marchande attribuée à l'or, c'est là la grande différence. L'Inca était considéré comme une représentation du soleil, et l'or comme étant l'émanation du soleil. Donc l'Inca était le fils du soleil, et le matériau qui était lié directement à l'Inca, c'était l'or. Ouais. Et
c'est
donc le but de l'Inca, c'est d'aller chercher des mines d'or pour régénérer son pouvoir.
Et si bien qu'à Cusco, on en trouve dans les jardins qui jouxtent le temple du soleil, des animaux taille réelle, des lamas en or massif. Alors, les murs sont parés d'or également.
En effet, vous aviez ce qu'on appelle le temple, le Kori Kancha. Kori, c'est l'or en quechua, le Kori, le temple du soleil. Et alors, il y avait plusieurs salles. et vous aviez une salle avec des jardins d'or, des lamas en or, des arbres en or, de l'or qui venait d'un peu de toutes les parties du territoire, qui avait été emmené notamment du territoire Chimú, qui était un territoire qui était conquis par les Incas, qui était un peuple d'orfèvres dans le nord du Pérou, et qui avait appris aux Incas à marteler l'or, parce que les Incas ne sont pas un peuple d'orfèvres. Oui. Donc ils ont récupéré cette partie, et bien sûr l'or venait de toutes les parties. Et les mines étaient considérées comme des objets sacrés, ce qu'on appelle là des wakas. Elles étaient imbues de l'esprit des ancêtres. Donc aller rechercher l'or dans les mines, c'était partager l'or avec les ancêtres, ouais, alors, le savoir des ancêtres.
Plus tard, quand les conquistadors arriveront, mais on aura le temps d'y revenir dans cette émission, les Incas ne comprendront pas du tout l'intérêt des Européens pour ce métal qui, pour eux, a une valeur symbolique, mais n'a pas de valeur marchande. Ils ont une monnaie, les Incas ?
On ne sait pas. On sait que dans certaines parties du territoire, il y avait des coquillages. On sait qu'il y avait des échanges. Tout était fondé sur le troc. Notamment, l'or était produit par des populations locales dans les mines d'or, donc l'or était emmené par des canons de lama jusqu'à la ville de Cusco, il était offert à l'Inca, et l'Inca redonnait une partie de cet or pour montrer sa jouissance vis-à-vis de ses subalternes qui le considéraient comme étant la divinité principale. Mais sinon, il n'y a pas de marché au sens européen du terme. Mmh. C'est un marché de troc. Ouais. Tout est établi par un système de troc.
Être riche dans l'Empire Inca, c'est posséder de grandes quantités de céréales, de nourriture, finalement. C'est
oui, ce qui fait la richesse. Oui, mais surtout autre chose. La coca. Ah. Alors la coca, c'est quelque chose de très... Aujourd'hui, on pense que tous les Indiens mangent de la coca pour éviter de souffrir de la faim, de la soif, etc.
Ce sont ces feuilles hein, que
ce
l'on
sont ces
que
feuilles
l'on
de coca, qui donnent lieu, bien sûr, à la cocaïne. Mais la cocaïne, comme le disaient mes collègues boliviens, coca, c'est pas la cocaïne. Donc c'est totalement différent. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les populations, avant l'arrivée des Incas, et même pendant les Incas, ne mangeaient pas de coca. Enfin, ne mastiquaient pas de coca. Ce sont les Espagnols, lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils ont exploité ces populations pour exploiter les mines d'argent, notamment à Potosi, qui voyant qu'ils mouraient et puis ne arrivaient pas à résister à l'altitude et à la souffrance, leur ont donné des feuilles de coca. Par contre, la richesse des Incas était fondée sur la possession de terres, et notamment de terres de coca dans les territoires un peu plus bas, ce qu'on appelle les Yungas, sur les territoires sur le versant amazonien notamment, entre 2000 mètres d'altitude où pousse la coca, et puis aussi des terrasses où ils cultivaient du maïs, notamment dans le lac Titicaca, où vous avez des îles, l'île du Soleil, qui est un territoire rituel, et ont cultivé notamment du maïs, mais c'est pas du maïs à manger. C'est du maïs qui était réservé à la fabrication de bière, qu'on appelle la chicha. Et cette bière entrait dans le cadre de rituel, un peu comme dans le carnaval de Dunkerque, tout le monde consomme de la bière. Évidemment, il n'y a pas de carnaval sans bière. Mmh. C'est exactement la même chose. Donc, c'était une plante rituelle et c'était une boisson rituelle. Mmh. Et la prestance de l'Inca était fondée justement sur sa capacité à offrir à la population, ce genre de victuailles lors des grandes fêtes.
Ouais. Alors, la population, les Incas leur offrent ces victuailles, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un système très élaboré de redistribution. Si j'ai bien compris, les Incas, dans un premier temps, récupèrent toutes les récoltes des populations alentours, les stocks, puis ensuite redistribuent en fonction des besoins. C'est aussi simple que ça ?
Oui, simplement, vous aviez dans la hiérarchie, dans les terrains, vous aviez les terrains de l'Inca, donc ce sont des parcelles qui étaient réservées à l'Inca. Vous avez des parcelles qui étaient réservées aux clergés de l'Inca, dont le temps du soleil, puis les grands prêtres, donc ils avaient leur terrain pour pouvoir vivre. Et après quoi, vous avez aussi les terrains de chaque communauté locale. Mmh. Et donc, les populations étaient soumises à un impôt, et donc devait travailler gratuitement pendant un mois à travailler pour la communauté et pour les terrains de l'Inca. Et en effet, une partie de ces réserves était emmenée dans les magasins de l'Inca, qu'on appelle les colcas, qui étaient colossaux. On avait des colcas immenses.
Des entrepôts gigantesques pour stocker la nourriture.
Qui permettaient juste, alors c'est pas tout à fait à Cusco, c'est dans un rang de Cusco, dans les vallées notamment, mais qui permettaient de faire face aux grandes catastrophes. Donc un tremblement de terre, ils n'auraient pas été confrontés au même problème qu'aujourd'hui, parce qu'immédiatement l'Inca donnait d'instructions pour qu'on sorte des greniers la quantité de population nécessaire pour entretenir les personnes les maisons qui avaient été détruites, les gens qui souffraient, et aussi les personnes âgées qui étaient prises en charge par la communauté et par les Incas.
Donc un système très redistributif. On imagine quand même que les populations devaient voir d'un mauvais œil le fait de devoir donner toute leur récolte à ces Incas.
C'est pas toute une raison, c'est une 10%, partie. Une partie, et elle le prend. Alors ça, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas comment elle le prenait, mais comme l'Inca était considéré comme l'envoyé du soleil, donc une divinité à part entière, c'est une notion qui nous échappe aujourd'hui. Mm-hmm. Mais on peut penser que c'était un privilège de redonner à l'Inca ce qui lui appartenait en quelque sorte.
Ouais. Alors comment les Incas organisent-ils tout cela ? Parce qu'on le rappelle, ils ne possédaient pas l'écriture. Alors quand même, ça demande de la gestion, de devoir comme ça stocker des réserves, savoir qui a payé son impôt ou pas, comment on le redistribue et à qui. Comment on gère tous ces stocks quand on ne peut pas tenir de cahier
Alors tout ça, c'était très bien organisé. Ils avaient un système de cordelettes à nœuds qu'on appelle le quipu. Alors c'est un système qui existe avant les Incas. Il s'appelait avant le, on appelait ça le chimu avant l'arrivée des Incas. Donc c'est un système qui serait peut-être daté de 1000 ans avant Jésus-Christ, qui a été repris par les Incas. Ce sont des cordelettes. Une grande cordelette sur laquelle on attache d'autres petites cordelettes. Et chaque cordelette, je simplifie au maximum, il y a un nœud, une couleur particulière. Donc, selon la, c'est un système décimal, chaque cordelette et chaque nœud montre 10, une unité de 10, de 100, etc. Et selon la position, selon la taille du nœud, selon la façon dont est construit le nœud, ça marquait 10, 20, 100, etc.
Ouais. Comment on a fait pour comprendre ça? Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, on a retrouvé ces cordelettes, il a fallu comprendre.
Vous aviez encore un autre système, c'est-à-dire, c'est simple. C'est pas simple. Ce système permettait donc de comptabiliser la population, les denrées qui étaient entreposées, mais aussi, ce système permettait aussi d'enregistrer les royautés, les chefs des Incas qui s'étaient succédés. Alors bien sûr, vous aviez une sorte d'inspecteur des impôts locales, qu'on appelait le quipu camayoc, avec, alors il y avait le chef des inspecteurs, l'inspecteur local, et lui avait la connaissance des nœuds, et arrivait à lire. Et c'est grâce à ça qu'on a pu... Alors, vous me dites comment on a... Eh bien, lorsque les Espagnols sont arrivés, ils ont compilé, ils ont parlé, bien sûr, avec les descendants, avant qu'ils ne meurent, avec ces quipucamecs, c'est-à-dire les responsables de ces cordelettes à nœuds, qui leur ont expliqué. Donc, ils leur ont expliqué à quoi servaient ces cordelettes. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement comment ça fonctionnait. C'est un peu comme si vous trouviez dans 200 ans avec un ordinateur... Vous sauriez que c'est un système binaire parce qu'on a l'écriture. Par contre, le logiciel, si vous n'avez pas appris à faire fonctionner le logiciel, vous serez incapable de le faire fonctionner. C'est exactement la même chose. Mmh. Alors, vous avez il y a plusieurs spécialistes, et vous avez notamment un Américain qui s'appelle Gary Horton, qui est spécialiste dans l'étude des quipus, qui est venu au Quai Branly il y a 2 ans pour étudier, parce qu'au Quai Branly, on a quelques quipus, et qui est la personne qui en connaît le plus, qui est capable un petit peu de dire à quoi servait. Et puis on a le témoignage des chroniqueurs. Donc en recoupant les témoignages des chroniqueurs avec les quipus, on arrive à une petite idée.
À savoir comment tout cela fonctionnait. Un lieu connu du monde entier et associé aux Incas, c'est le Machu Picchu. Alors où est-il situé? Il est particulièrement difficile d'accès. Et pourquoi a-t-il à ce point marqué les esprits? Faisons une halte par le Machu Picchu.
Alors Machu Picchu, le nom qui est donné, alors c'est un nom qui était connu à l'époque espagnole. C'est le vieux pic. Picchu, on l'appelait. Sauf que les Espagnols, comme c'est un endroit retiré dans la cordillère Vilcabamba, c'est une cordillère qui se trouve au nord-ouest de Cusco, à 70 kilomètres de là, à la limite de la région du bassin amazonien, du piémont amazonien et des hautes terres. Donc pour y arriver, il faut franchir un col à près de 5000 mètres d'altitude. Le site lui-même est localisé à 2700 mètres d'altitude, donc juste à la limite du terrain, et donc sur une éminence rocheuse, donc très difficile d'accès. Et donc, il est évident que les Espagnols, comme c'était une région qui était contrôlée par les Incas pendant 70 ans, lorsque les Espagnols sont arrivés, il y a des régions qui sont contrôlées par les Incas, notamment cette cordillère de Vilcabamba, où s'étaient réfugiés les Incas, dans le site de Vilcabamba notamment. Mmh. Et donc, maintenant, ils organisent des escarmouches pour éviter les Espagnols d'envahir cette région. Donc, pendant 70 ans, cette région est restée inconnue. Et puis par la suite, c'est une région qui a totalement été oubliée. Et le site, comme il était en altitude, est resté totalement oublié. Donc, site difficile d'accès, qui n'était peut-être pas occupé à l'époque où les Espagnols sont arrivés, peut-être il était déjà abandonné. Donc évidemment, ça s'est perdu. Et donc, on a longtemps cherché parce que c'était un mythe. Ouais. On pensait que c'était l'endroit où s'étaient réfugiés les derniers Incas. Ce n'a pas été le cas.
Ce n'est pas le cas.
Et c'est Bingham qui l'a découvert en 1911, mais on sait aujourd'hui que c'était pas le seul. On sait aujourd'hui que, au 19e siècle, vous avez un inspecteur des mines locales, le seigneur Bourne, qui identifie dans une carte que l'on a retrouvée, un site de Picchu, et qui était considéré comme un site de Huaca, donc ce site sacré. Et à cette époque-là, les sites de Huaca, c'est des mines et ils avaient le droit d'exploiter. Et donc, on sait qu'il a exploité ce site. Et lorsque Bingham est arrivé sur le site, finalement, il n'est pas le premier à avoir découvert le site. Mais bien qu'officiellement et de façon historique, c'est le premier.
Ouais. En 1911, je crois, 1911. Bingham. Mais en fait, c'est une redécouverte. Finalement, il avait déjà été vu par d'autres. Alors, des découvertes sur le Machu Picchu, il y en a régulièrement. Par exemple, en prenant de la hauteur, les chercheurs pensent avoir fait une découverte, comme l'explique l'archéologue ici, Luis Jaime Castillo.
Nous avons survolé le Machu Picchu avec un drone pour en faire une modélisation. Et voici ce que donne la reconstitution du site en 3D. C'est exceptionnel. On voit ici la tête avec le bec et un bras tendu. C'est donc un oiseau anthropomorphique. On a ensuite le torse, les pattes, qui sont étirées en arrière, la queue et les ailes. C'est intéressant parce que selon certains chercheurs, le terme Pichu de Machu Picchu signifierait justement oiseau.
Alors Patrice Lecoq, cette forme d'oiseau vue du ciel, du Machu Picchu, c'est avéré ou c'est une théorie ou on est à peu près sûr que c'est volontaire ?
Sur le Machu Picchu, on n'en est pas sûr. C'est une hypothèse, d'autant plus qu'aujourd'hui on a dégagé une partie des sites, mais peut-être pas tout. Et tout dépend ce qu'on voit. Alors c'est vrai qu'avec le drone, on a une définition assez extraordinaire. Il est possible, ce serait pas étonnant, pour la bonne raison qu'on a parlé tout à l'heure de Cusco. Et on sait que Cusco, d'après certains archéologues, a été fondé sur le plan d'un puma. Il y a deux rivières et... La tête du puma correspond à la forteresse qu'on a évoquée, Sacsayhuaman. Donc en fait, on a un puma qui est un animal symbolique, qui représente une représentation d'un animal. Mmh. Et donc il est possible que Machu Picchu soit aussi la représentation d'un animal, puisque ces animaux ont un rôle à jouer. Alors j'ouvre une parenthèse, ce serait pas étonnant dans la conception humaine, pour la bonne raison que ce genre de représentation, si on travaille par exemple sur l'Asie ou sur le Népal, on a ce qu'on appelle des mandalas, et vous avez la ville de Patan, au Népal, qui est fondée sur la conception d'un chakra, qui est le symbole de Vishnu. Mmh. Et donc, on sait que... Là, on a des textes, donc il est très facile de savoir ce que c'est pour le Népal. C'est pas le cas pour les Andes. Ouais. Et on sait que les populations de haute caste, les Brahmas, habitaient dans la tête, et puis les Kshatriyas, et puis les autres populations habitaient dans les pieds de l'animal symbolique. Vajtupurusha Mandala, c'est le nom donné en sanskrit.
Et puis par le passé, si on reste au Pérou, d'autres civilisations avaient déjà imprimé dans le paysage des grandes figures. On a en tête ces lignes Nazca. De Nazca qui délimitent des formes de singes, d'oiseaux, oui. Que l'on voit très bien quand on survole la région en avion.
Alors là aussi, c'est complexe parce que il y a 4 ou 5 périodes d'occupation. Donc ce que vous évoquez, ce sont ces animaux. Alors on a des colibris, on a des albatros, on a une araignée, on a des singes, mais qui correspondent à des strates de population plus anciennes, dont on a perdu bien sûr le fil conducteur, c'est le cas de le dire, et qui seraient, pour simplifier, on pense que ce seraient des représentations de divinités. Alors certaines personnes, comme Aria Reich, qui est une anthropologue et une mathématicienne allemande, qui a consacré sa vie à Machu Picchu, avait émis l'hypothèse qu'il s'agirait de constellations. Mmh. Alors c'est difficile à démontrer, mais on sait notamment que pour les Andes, on a la constellation du Lama, sur lesquels j'ai travaillé, donc Alpha et Beta du Centaure, deux yeux, ouais. Qui sont des représentations. Et donc il est possible qu'en effet certains de ces animaux soient des représentations d'étoiles particulières, ouais. Qui là aussi sont considérées comme des ancêtres, donc comme des Wakas.
Que d'énigmes hein, sur ces peuples précolombiens. Nous allons tenter de comprendre dans la suite de cette émission comment une poignée de conquistadors est arrivée à bout de ce peuple conquérant et de son empire en apparence si puissant. Le temps d'un bivouac sur la piste des Incas avec l'archéologue Patrice Lecoq.
On the street, tank top in the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet. Knapsack with me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little book keep. Money pa me mind, but me never have a kind. Now cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy see the sunshine, that's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil, I like it himself, he turn it down. So me just give him the fire, I make it burning.
See ya, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning.
sound anytime he come round. A madness funny compound. Man a ton, fool a ton, clown. But Jah Jah cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything, me nigga will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it. Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up higher and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame.
C'était Burning Coffee sur France Inter.
On est sur les hauteurs, sur les hauts plateaux au nord de l'Équateur, dans le parc national de El Anrel. Et en face de nous, bah, c'est la Colombie. L'Empire Inca, selon les théories, s'arrête plus ou moins au niveau de la ville de Pasto. Donc voilà, c'est notre premier jour de marche sur le Cap Acnian. Cette grande marche qui va nous conduire du nord de l'Équateur au nord de Quito jusqu'à Mendoza en Argentine, entre 5 et 6 000 km de marche. Le Cap Acnian, donc cette grande route Inca, route monumentale qu'on va découvrir petit à petit en marchant. Alors avec des lamas et puis ensuite voir à quelle vitesse on arrive à marcher avec eux et avancer comme ça le long du camino, le long du chemin de l'Inca.
L'auteur et réalisateur Laurent Granier sur une des routes tracées par les Incas, tracées il y a 6 siècles. Elles sont encore empruntables aujourd'hui, Patrice Lecoq, ces routes ?
Oui, alors à l'origine c'est un réseau qui s'appuie sur des réseaux de routes plus anciennes, de civilisations antérieures aux Incas, qui mesurent sur les 5 pays qui traversent 30 000 kilomètres.
Ah ouais.
Alors une partie aujourd'hui a été reprise par la Panaméricaine, c'est-à-dire que vous avez plusieurs routes, vous avez des grands axes qui parcouraient donc l'Empire Inca du nord au sud, donc depuis l'Équateur, la région de Tomebamba qui était la seconde capitale au nord de l'Équateur jusqu'à Cusco, par l'intermédiaire de la Sierra, donc toute la partie de la Cordée, et puis une autre route qui traversait en empruntant donc le littoral. Alors cette route aujourd'hui n'existe presque plus parce que c'est la route qui a été réutilisée dans les années 60 pour construire la Panaméricaine par les Américains. Alors c'est une route qui a été étudiée par un anthropologue américain dans les années 60-70, s'appelle Islop, et donc a été déclarée patrimoine de l'UNESCO il y a 5 ans à peu près. Donc ça a été très difficile à classer parce qu'en effet, il y a plein de petits réseaux secondaires. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette route était jalonnée de sortes de caravansérails qu'on appelait des tambos. Alors ce sont ça servait à la fois de relais postiers, parce qu'il y avait un système de poste,
oui,
avec des gens qui couraient.
Qui permettait aux Incas de transmettre des messages dans leur très grand empire qu'ils ont bâti en si peu de temps et d'aller très vite. Finalement, un message mettait moins d'un mois pour aller de Cusco à l'extrémité.
Lorsque les Espagnols sont arrivés donc dans l'heure du Pérou à Caramarca, on a su qu'ils étaient arrivés au bout de 5 jours.
Ouais.
Et vous avez à peu près 3000 kilomètres entre Caramarca et la ville de Cusco. Donc l'Inca qui était à Cusco savait que des gens étaient arrivés par la mer à cet endroit-là.
Ouais. Grâce à ces réseaux routiers et ces personnes qui piquaient des sprints alors
voilà, ce sont ce qu'on appelle les chasquis, ça correspondait à nos postiers. Alors il n'y a pas de chevaux à l'époque, donc il fallait qu'ils couraient. Ils couraient, c'était des jeunes adolescents qui avaient 12, 13 ans, 14 ans, qui étaient armés d'un poutoutou, d'une con qui annonçait l'arrivée. Et puis il y avait l'autre poste, ils avaient un quipou en général, un message donc codé dans la
corde. Avec ses cordelettes et ses nœuds, oui.
Il annonçait son arrivée, il transmettait le quipou et l'information était transmise. Alors vous aviez aussi sur ce réseau des sites rituels, des sites d'habitat, des villes, donc tout un réseau, toute une infrastructure, des ponts suspendus. Des ponts avec des bateaux qui étaient attachés notamment sur le lac Titicaca, donc on n'a rien inventé, vous voyez, quand on parle des armées qui veulent envahir un territoire qui utilise les balsas, et donc parfaitement établi et qui arrivait jusqu'à ce qu'aujourd'hui Santiago du Chili.
Alors on entend votre passion, Patrice Lecoq, pour cette civilisation Inca que vous connaissez si bien. Il n'y a pas beaucoup d'archéologues en France qui travaillent sur les Incas, vous êtes pour ainsi dire le seul.
Oui, aujourd'hui, en tant qu'archéologue, oui. On avait quelques collègues des ethno-historiens qui sont partis à la retraite, notamment quelqu'un de Thérèse Bouis-Cassagne, qui travaille aux hautes études ou au CNRS. Malheureusement, la plupart de ces gens ont pris leur retraite. Et donc, aujourd'hui, travaillons sur les Incas. En tant qu'archéologue, en France, il n'y en a pas.
Alors vous travaillez précisément, pas sur le Machu Picchu dont on parlait tout à l'heure, mais sur une cité moins connue qui est considérée comme la sœur du Machu Picchu. Vous avez mené des fouilles oui. là-bas, et on n'a pas encore dégagé tout le site, hein, d'ailleurs.
Non, alors c'est un site qui s'appelle Choquequilo, le berceau de l'or, vous voyez, c'est tentant.
Parce que berceau de l'or.
Berceau de l'or.
Tout un programme.
C'est un site qui était connu au 19e siècle, donc qui a été visité par Birmingham, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on considérait, là aussi, c'était le dernier refuge des Incas. C'est comme ça qu'il est présenté aux touristes qui visitent le site aujourd'hui. Et c'est la petite sœur, donc Machu Picchu est sur la partie nord de la cordillère de Vilcabamba, Choquequilo sur la partie sud, sur le versant sud. Et c'est un site extraordinaire. Alors, il ressemble beaucoup à Machu Picchu, sauf qu'il y a beaucoup plus de terrasses, beaucoup moins d'édifices, beaucoup moins de structures. Il y a une répartition comme à Cusco, une moitié du haut, moitié du bas, un secteur haut, un secteur bas. Dans le secteur haut, c'est là qu'habitait, on pense à Cusco, Machu Picchu, la population importante, les palais de l'Inca. Dans la partie basse, eh ben, les membres, les paysans. Mais sur ce site, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a découvert, il y a des grandes terrasses, donc pour cultiver du maïs notamment, et on a découvert sur le versant occidental des terrasses décorées de caravanes de lamas et de motifs géométriques. Et j'ai pu démontrer qu'il pourrait s'agir de représentations textiles, c'est-à-dire qu'on a représenté un textile, c'est comme si on avait habillé la montagne d'un oui. vêtement et d'un textile. Et c'est ce qu'on faisait avec, je parlais tout à l'heure des wakas, des divinités. Et ben, on habille les divinités comme on habille aujourd'hui les vierges. Ouais. Si vous allez en Espagne, on les chante, on leur met un habit, une robe ouais. traditionnelle. C'est exactement la même chose.
Et on donc, habillait les montagnes.
On habillait la montagne. Bon, donc ça, c'est une hypothèse, mais ouais, c'est ouais. une boîte intéressante parce que les motifs sont formés par des pierres verticales qui dessinent les jambes, la tête de lama. Et c'est le seul endroit dans les Andes où on trouve ces représentations sur des terrasses.
Alors le travail des historiens et des archéologues dont vous êtes, Patrice Lecoq, a été très utile pour comprendre comment l'Empire Inca s'était effondré. Et c'est vrai que c'est une énigme, hein, a priori. Maintenant, on sait un peu comment les choses se sont passées, mais lorsque les conquistadors débarquent, les Incas règnent en maître sur un empire gigantesque de 10 millions de personnes. Nous sommes en 1532, les conquistadors débarquent avec à leur tête Francisco Pizarro. Ils ne sont que 180 mercenaires et ils vont réussir à prendre cette capitale Cusco. Comment est-ce possible ?
Alors là aussi, ce qu'on nous présente ne correspond pas tout à fait à la réalité, parce qu'on présente, c'est tout simplement une poignée d'Espagnols qui sont arrivés. Bon, il y a eu plusieurs conquêtes, notamment des territoires comme la Colombie, l'Équateur, donc ils arrivent à une troisième conquête. Ils ont l'appui d'un jeune homme qui est un traducteur, qu'ils accompagnent en Espagne, donc il sert de traduction. Mais il faut voir qu'à l'époque, lorsque les Espagnols arrivent, l'Empire est en prise à une crise, une guerre civile entre deux empereurs, Atahualpa,
qui est donc l'empereur Inca du moment.
Voilà. Et Atahualpa. Donc vous avez un empereur qui se trouve dans la ville nord Atahualpa, qui se trouve dans le nord de Cusco, dans le nord, et puis Huascar, qui est son demi-frère. Et donc il y a une guerre civile. Je passerai sur les détails pour cette guerre civile. Et donc évidemment, il y a des populations entières qui prennent parti pour Talinka et d'autres populations qui prennent parti pour Atahualpa. Lorsque les Espagnols arrivent, il y a cette guerre civile, ce qui fait que l'Empire ouais. est divisé.
Et oui, ils vont profiter des dissensions. Ils vont quand même prendre part aux combats et les combats vont être violents. L'étude des squelettes et des crânes exhumés par les scientifiques témoigne des combats.
La mandibule a été fracturée. On l'a retrouvée en deux parties. Cette blessure a été causée par une épée qui a transpercé le visage au niveau du nez et de la zone de la bouche. La nuque porte trois trous rectangulaires. Ces blessures ont été infligées avec une longue lance, alors que l'individu se trouvait face contre terre. Mais pour les Incas, la pièce la plus étonnante de l'arsenal espagnol était l'arme à feu. L'un des crânes de Purucucho présente un trou d'un peu plus d'un centimètre de diamètre. Les Espagnols n'avaient pas seulement des armes redoutables. Certains avaient des chevaux. Cet animal n'existait pas en Amérique du Sud. On est arrivé à la conclusion que cet individu avait été frappé par les pattes antérieures du cheval. Leur poids a comprimé les côtes et brisé certains os.
L'archéologue Guillermo Coq, un nouvel extrait de l'Empire Inca diffusé sur France 5. Ils avaient des armes, ces chevaux. Ça explique aussi cette supériorité que les Espagnols ont eue.
D'abord, il y avait la caravelle. Donc, ils sont arrivés, ils voient des bateaux. Donc, les Indiens voient des bateaux, ils ne sont pas habitués, de plusieurs étages. Ils voient un être qui est couvert d'une armure, qui se décompose en deux. Le conquistador, qui a donc le cheval recouvert d'une armure, et puis la personne qui est aussi recouverte d'une armure. Donc, ça les frappe. Ils ont des arquebuses, et puis ils ont des qui frappent. Donc c'est comme l'éclair. L'éclair, c'est la divinité Viracocha, c'est la foudre. Donc ils sont pas habitués. Donc ils sont tués par ces projectiles. Et en même temps, ils ont des chiens de guerre. J'ignorais totalement, je l'ai appris il y a pas très longtemps, dont des Dobermann, des chiens énormes qu'ils envoient et qui ont massacré les Indiens. Alors l'émission donc qu'on a écoutée tout à l'heure, en effet, quelque chose qui se passe dans la région de Lima, où là on est pour la première fois, on a des témoignages montrant que les Indiens ont été tués par ces armes et par les boulets.
Ouais. Alors, les Espagnols se montrent sans scrupules également. Ils vont aller jusqu'à capturer l'empereur Inca Atahualpa et réclamer une rançon. Ils se comportent vraiment sans scrupules. Hein.
Alors, c'est l'Inca lui-même qui propose une rançon parce qu'il ne sait pas qui ils sont. Il dit, mon territoire est extraordinaire, donc je propose de remplir cette salle. C'est la légende, remplir cette salle avec... De l'or, de l'argent, etc. Et cet argent commençait pendant les deux mois. Les carmes de Lama arrivent avec des monceaux d'or, d'argent, etc.
On paye la rançon.
On paye la rançon.
Plus de 6000 tonnes d'or, hein, je crois.
Et une partie sera réservée à l'empereur espagnol, au roi espagnol. Mais à un moment, ça n'arrive pas assez vite. Et puis finalement, les Espagnols sont prêts à leur propre piège. Et lorsqu'ils apprennent que l'Inca a donné l'ordre de faire exécuter son demi-frère, puisque j'ai expliqué, il y avait une guerre civile, ils ne le comprennent pas, et à ce moment-là, ils décident de mettre à mort. Alors, ils le décident, et en même temps, c'est assez complexe, parce qu'ils décident de le mettre à mort, mais de conserver son corps. L'Inca, son corps doit être conservé, parce que c'est une huaca, c'est une divinité. Et les Espagnols disent, on va brûler votre corps. Donc ils essaient de préserver, l'Inca essaie de préserver, finalement, il sera mis à mort, il sera garrotté, et à partir de là, le trésor n'arrive plus, et petit à petit, les Espagnols vont se répartir cette rançon, et vont partir à la conquête du territoire. Ils vont mettre presque près d'un an à arriver à Cusco. Il faut imaginer avec leurs animaux, leurs chevaux, traversant le territoire. Et il y a une petite anecdote intéressante, le fer n'était pas connu. Est-ce que vous savez avec quoi ils ferraient leurs animaux?
Non.
De l'argent.
Ah oui.
De l'argent, du bronze, puisque le fer n'est pas connu. Donc le seul métal qui permettait de ferrer les chevaux, c'est de l'argent. Et donc ils réquisitionnaient les populations qu'ils traversaient pour avoir des orfèvres qui leur donnent de l'argent pour ferrer leurs chevaux.
Alors combien de temps les Incas vont résister et tenir tête aux conquistadors? C'est ce que nous allons voir avec vous, Patrice Lecoq, dans la dernière partie de ce temps d'un bivouac sur la piste des Incas.
Pas vu venir. reste plus rien, tout changé. Revois ta copie, remets les amis, les ennuis, les envies, les désirs, les sens de ta vie, tout changé.
C'était Françoise Hardy, Le Danger sur France Inter.
Étranger, vous avez commis l'imprudence de pénétrer dans le temple du soleil. Vous paierez ce sacrilège de votre vie. C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné.
Un extrait de Tintin et le Temple du Soleil. D'ailleurs, on a cette question qui nous arrive d'un auditeur, Hervé, sur Facebook, qui demande, l'album de Tintin est-il fidèle à l'histoire Inca? C'est peut-être une colle pour vous, Patrice Lecoq.
Non, il est fidèle. Et j'ai, il y a pas longtemps, j'étais invité dans une émission où il y avait un membre de la Fondation Hergé, et on a discuté notamment la fameuse boule de cristal.
Ouais.
Son travail est extraordinaire parce qu'il s'est documenté partout.
Ah ouais.
Il est allé chercher dans les revues de l'époque, dans les journaux, dans l'exposition universelle du 19e siècle. Donc c'est un travail, moi j'apprécie beaucoup Tintin. Ouais.
Ça rejoint ce qu'on se disait vendredi dans cette émission. Alors en tant qu'archéologue européen, Patrice Lecoq, là on entendait cette histoire de malédiction. Est-ce qu'il vous est parfois, vous êtes senti en porte-à-faux avec la culture locale, il faut marcher sur des œufs pour venir fouiller cette culture qui n'est pas la vôtre.
Oui, notamment quand on travaille sur les momies, parce qu'il nous arrive de découvrir des momies encore en place, c'est rare parce que la plupart des sites ont été saccagés. Donc avec les populations, il faut faire extrêmement attention parce que ils les considèrent comme leurs ancêtres, donc il faut leur rendre hommage. Et il m'est arrivé de travailler sur des squelettes et j'ai en effet rendu hommage en mettant des feuilles de coca, en faisant des libations d'alcool, et les populations qui étaient avec moi étaient très contentes de voir que je respectais leurs us et coutumes, ouais. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des archéologues européens.
Alors pour terminer sur l'histoire, quand en 1530, dans les années 1530, les Espagnols arrivent au pouvoir dans cette région du globe, ils vont tout faire pour éradiquer la culture inca.
Oui, notamment, ils vont détruire les huacas, que j'appelais tout à l'heure les huacas, c'est-à-dire tout ce qui était symbole de l'esprit des ancêtres, les sources, les arbres, tout ce qui avait une forme particulière. Donc, ils vont envoyer des missionnaires appartenant à différentes églises, de façon à déstructurer, casser. Ils vont prendre les momies, notamment, on sait que les momies des 13 Incas, qui avaient été préservées, une grande partie a été préservée, seront emmenées à un moment après la conquête à Lima, où elles disparaissent. Et ils vont essayer de brûler, puisque c'était considéré comme des divinités, des diables. Mmh. Donc tout ce qui était ancien, ils vont impliquer le vêtement que l'on connaît aujourd'hui, parce que chaque population a son propre vêtement. Donc là, on a une sorte d'ethnocide avant la lettre.
Ouais. Les Incas ont-ils des descendants dans la population? Vous parlez d'ethnocide, est-ce qu'on peut aussi parler de génocide?
Oui, c'est un génocide. Alors il y a des descendants, il y a pas très longtemps, des chercheurs américains voulaient faire une étude sur les chaînes d'ADN pour retrouver les Incas. C'est difficile parce qu'on ne sait pas à quoi correspondent les Incas, puisque c'est un mélange de populations. Aymara, Inca, Quechua. Donc ça, c'est très difficile de savoir. Mais en effet, on a des gens aujourd'hui qui se disent les descendants des familles incas, ce qu'on appelle les Panacas. Et en effet, ce sont des nobles, même aujourd'hui à Cusco. Il y en a à peu près une dizaine qui habitent et qui sont reconnus comme étant les descendants des anciens incas.
Donc il y a encore quelques descendants d'incas aujourd'hui. Merci Patrice Lecoq de nous avoir passionné, de nous avoir emmené comme ça sur la piste des incas. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un Que sais-je sur les civilisations précolombiennes, si l'on veut en savoir plus sur ces incas et sur l'ensemble des civilisations précolombiennes. Je vous présente l'invitée de la deuxième heure. Elle s'appelle Martine Laroche-Joubert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter. Vous avez couvert de nombreuses zones de guerre et de conflits armés. Le siège de Sarajevo, les deux guerres du Golfe, la chute de Kadhafi en Libye plus récemment, et bien d'autres encore. On va avoir l'occasion d'en parler dans la suite de cette émission. Vous allez nous raconter votre expérience de reporter de guerre, comment on voyage, on travaille en terrain dangereux, coupé du monde, loin de sa rédaction. Vous nous direz ce qui vous a fait aimer et continuer ce métier depuis près de 30 ans. Merci Patrice Lecoq de nous avoir emmené sur la piste des Incas. Et à tout de suite, Martine Laroche-Joubert.